Vous êtes sur Canal B 94.fm, l'émission musique.fm, en ce 26 mai 1999. Benjamin, comment vas-tu ?
Hey, salut, comment ça va ? Ça va bien ?
Bah écoute, la forme, j'ai la pêche.
Bah oui, on est en 99, franchement, c'est ouf. On est bientôt en l'an 2000. Je sais pas si tu te rends compte, c'est le futur.
Je pense qu'il... Voilà, on n'est pas encore à la fin de l'année, mais je pense qu'il fallait quand même en parler, parce que je pense que personne se rend compte. Ça y est, on arrive dans le 21e siècle. C'est absolument incroyable. Tout ce qu'on a rêvé, tout dans tous les films, dans Retour vers le futur, etc. Tout ça va peut-être se réaliser bientôt, les skates volants.
Les bagnoles volantes, moi j'y crois. J'y crois vraiment.
Déjà, on a Internet, c'est quand même assez ouf.
Internet, alors je ne sais pas si ça marchera ce truc, mais franchement, ouais. Ça commence à marcher vraiment très très bien.
Oui, bon, c'est vrai que. Bon,
ça reste niche un peu quand même.
Ça reste un peu niche, mais il y a toujours un bon petit café Internet pas loin de chez soi.
Exactement.
Jouer un peu, en réseau et tout ça, quoi.
Jouer à la One Again, tu veux dire.
Voilà, exactement. Vous avez sûrement évidemment reconnu, parce que si vous écoutez l'émission, c'est que vous êtes un peu dans le délire. On a ouvert l'émission avec le Microsoft Sound Point, enfin .wav, de Brian Eno. Donc peut-être que tout le monde ne savait pas ça par contre, mais c'est le compositeur Brian Eno, un anglais qui est quand même très connu dans la musique actuelle, qui a eu cette commande donc, de faire le son d'intro de Windows 95.
Trop classe.
Ouais, ça paraît un peu anodin comme ça, un petit son un peu enjoué, on va dire. Mais il faut savoir qu'il a mis énormément de temps à le composer. J'avais vu un petit documentaire sur la BBC, je crois, qui est donc la chaîne, le réseau de télé en Angleterre. Et vous voyez, ouais, qui avait fait 80, 50, je ne sais plus, tentatives d'enregistrement avant de trouver vraiment le petit son parfait.
Un petit agencement de quelques notes qui marche trop bien.
Et qui définit, je trouve, un peu l'esthétique de Windows, finalement.
Ben oui. Mais de toute façon, c'est ce qu'il y a de plus marquant quand c'est un matériel aussi simple, comme par exemple la PlayStation qui est sortie il y a quelques années, il n'y a pas très longtemps. L'intro est mythique, déjà, pour tout le monde, alors qu'elle est quand même très simple.
Je pense que bon, ça paraît évident que c'est hyper important de s'attarder là-dessus, mais ça définit absolument tout en fait. Ouais. C'est toute une esthétique, et je suis sûr que peut-être dans 20 ans, on se référera peut-être à ces esthétiques de notre époque, des années 90. Quoi.
Ah, ce sera à nouveau la mode, tu veux dire ?
Ça se répète souvent quand même. Mais,
en tout cas,
là,
déjà, c'est le futur là, pour l'instant.
Ouais, exactement. Et on va donc aborder, comme d'habitude, la musique de jeux vidéo, donc ce qui est le thème de notre émission. Et on va faire une spéciale ordinateur aujourd'hui, microprocesseur, PC. On va parler peut-être un peu carte son, Sound Blaster, etc.
Et sortez votre meilleur Roland, meilleur Sound Blaster.
MT32, exact. Ou Sound Canva. Et écoute. Je pense que je peux peut-être commencer un peu à passer un peu de son.
Vas-y, ouais.
Ok, cool. Donc, j'ai compilé quelques morceaux de l'univers de l'ordinateur. Et ce qu'on va faire, c'est que je vais vous les passer comme d'habitude. Et après, on en parlera tous ensemble.
Ça roule.
À tout à l'heure. Canal B et 94 FM, musique.fm, l'émission sur la musique de jeux vidéo. On n'est pas en nightclub, on est dans un studio de radio à Rennes. Il fait très chaud aujourd'hui. Et nous écoutons actuellement un morceau tiré du jeu Dark Colony, un RTS, donc un jeu de stratégie en temps réel, comme on a eu pléthore dans les années 90, donc qui se termine cette année. Et donc là, c'était tiré du DLC de l'add-on Council Wars. Et bah, je sais pas si chez nos auditrices, auditeurs, il y en a qui ont joué à Dark Colony, mais bon, quelle expérience un peu compliquée. Vendu un peu comme un StarCraft, parce que ça se passe dans un monde spatial, avec des colons qui viennent s'installer sur une planète et qui rencontrent une menace extraterrestre.
Une menace extraterrestre assez dégueulasse, visuellement.
Ouais. Dégueulasse visuellement, et le jeu est extrêmement dur. Après, c'est un des premiers jeux qui introduit en fait le système de jour et de nuit. En fait, c'est un peu comme dans Warcraft 2 où finalement les orques et les humains avaient quasiment les mêmes unités. En fait,
il y a une équivalence entre les
unités.
Voilà,
la balance était à peu près la même, à quelques exceptions. Et là, c'est quasiment le cas dans Dark Colony. Genre, c'est exactement les mêmes unités, juste les skins sont différents. Mm-hmm. Par contre, le côté jour-nuit fait que les aliens sont plus forts la nuit et les humains sont plus forts le jour.
Ah, c'est malin, ça.
Ouais, c'est très malin. Hein. C'est peut-être quelque chose qu'on verra plus tard aussi. Mais il y avait ce petit truc cool. Après, l'ambiance était un peu poisseuse, très très dark. Mais par contre, j'ai testé le jeu. C'est impossible de passer quelques niveaux. Quoi. C'est hyper dur. Par contre, la musique balance pas mal.
Ah bah c'est quoi? C'est la musique du futur un peu. Ce côté c'est... acide là. Je pense que les nouvelles sonorités dans les années 90 pour nous. Hein.
Je pense que les jeunes, ils écoutent ça dans les boîtes de nuit, ouais. À fond.
Dans les discothèques, ouais.
On va revenir un petit peu en arrière parce que là on était en 97 et j'ai commencé par passer un morceau qui s'appelle Canyon.mid et qui était donc composé par George Stone qui était déjà dans Windows 3.1 en fait quand on l'a installé et qui a survécu aux années et qui est toujours présent dans Windows 98 et qui était présent dans Windows 95. C'était des morceaux full MIDI qui étaient en fait faits pour tester un peu les cartes son qu'on avait dans les ordis. Je ne sais pas si on utilise encore ça. Si, je crois que c'est encore prévu. Mais en tout cas, bah, je me souviens avec ma Sound Blaster d'essayer péniblement de configurer mes jeux sur MS-DOS pour configurer la carte son dans le setup. Et ce genre de fichier, c'était pour voir aussi donc Canyon MIDI. On pouvait lancer ces morceaux déjà programmés et les tester avec les cartes de son qu'on avait sous la main.
Bah ouais.
Ou les expandeurs Roland, par exemple, tout ça. Donc c'est très jazz fusion, dans l'air du temps.
Très, très, très prog, en fait.
Ouais, carrément. Un peu générique de sitcom, un peu genre Seinfeld, un peu, tu vois, dans les
soirées. Ouais, c'est ça. Il y a quand même un côté chill.
Tout à fait. Ouais. Donc Canyon.mid, un morceau bien cool, un petit trésor, et... voilà, qui est destiné à être assez culte, hein, j'en suis sûr. On en reparle dans 20 ans. Et c'est enchaîné avec le morceau Skyscrapers de Sue Casper tiré de SimCity 2000. Donc SimCity 2000 qui ne sortira pas l'année prochaine en 2000 mais qui est sorti en 94, donc toujours développé par les équipes de Maxis. Donc que dire, évidemment, c'est une tuerie. SimCity 2000, enfin le premier était déjà évidemment révolutionnaire. SimCity 2000 va encore beaucoup plus loin.
Plus, c'est dans le futur, donc franchement.
C'est dans le futur, tu peux te faire attaquer par un robot alien, un œil. Et graphiquement, il est magnifique. On prend vraiment plaisir à enfin, pousser un peu les gratte-ciel, les tours. Je suis déjà nostalgique de ce jeu alors qu'il a déjà 5 ans, tu vois. Et donc voilà, et pareil, un peu dans la continuité de Canyon.mid, donc musique un peu très MIDI, qui lorgne un peu vers le côté un peu ambiance, chill, avec des instruments un peu réels, du réel, etc. Ensuite, on a écouté un petit morceau plus ambiante qui s'appelle Water, composé par un français, Stéphane Pic, tiré du jeu Dune, sorti en 92. Dune, donc... évidemment, très connu, un livre très connu de science-fiction, adapté au cinéma par David Lynch aussi, et un jeu d'aventure qui se base uniquement sur du texte quasiment, et des visuels qui sont très beaux, très à la pointe pour 92. Donc on est dans Dune, voilà, pour celles et ceux qui connaissent, dans cet univers donc de désert, sur une planète désertique, à trouver les épices, donc l'épice, pardon, une ressource très recherchée. Et c'est passionnant, et c'est un jeu qui est assez exigeant, mais qui vaut le détour. Et la musique de Stephen Peake est vraiment chouette, très ambiante, avec les synthétiseurs les plus modernes utilisés, donc... C'est vraiment une belle expérience.
Là, le jeu, il est tiré des bouquins ou du film ?
Du film, tu fais bien d'en parler. Ah. Car en effet, on voit visuellement, il y a l'acteur Kyle MacLachlan est d'ailleurs numérisé un peu.
D'accord, ok. Ah oui, bah ça c'est intéressant parce que le film, il a quand même divisé quand il est sorti.
Oui.
Mais il a vraiment un vrai cachet, je trouve.
Il a un cachet, c'est clair.
Je l'aime beaucoup.
Alors, je me souviens plus si le jeu est vraiment... basé sur l'histoire du film, il reprend l'esthétique en tout cas.
En tout cas, je suis sûr que s'il y a des adaptations de Dune dans le futur, on ne sait pas, peut-être il y en aura d'autres, je suis sûr qu'elles seront moins bien que celle-là. Ça, j'en suis persuadé.
Ouais, je pense pas, parce que quand même, dans les années 2000, je pense qu'on va quand même passer à autre chose, développer des nouveaux scénarios, des nouveaux genres de films, et il sera peut-être temps aussi de tirer une croix un peu sur le 20e siècle.
Ah, c'est vrai, non, pardon. Je suis un peu rétrograde déjà alors qu'on est en 99.
Et ouais mec, tu te rends pas compte là, faut aller vers l'avant. Et on a enchaîné avec un morceau du cultissime Secret of Monkey Island sorti en 90, le morceau The Voodoo Shop. Donc on était obligé de passer à Monkey Island.
Je crois que c'est Monkey Island, c'est pas l'une des premières conversations qu'on a eues toi et moi, enfin de trucs sur lesquels on a matché au niveau jeu vidéo. Je crois que c'est quelque chose qu'on partage, en tout cas, l'amour pour cette série.
Absolument. Ça a été un des premiers sujets de lien. Et on n'est pas les seuls, je pense. C'est un jeu évidemment mythique qui a défini les bases actuelles du point and click. Et on doit ça au studio LucasArts, en plus, qui ont évidemment continué dans cette lignée, qui ont développé les plus grands point and click à ce jour. Et pas que, ils ont fait aussi des super jeux Star Wars. Enfin, j'avais il n'y a pas si longtemps fait TIE Fighter, comme ça, des simulations de X-Wing ou de TIE Fighter avec un joystick. Ouais. Et excellentissime.
Des grandes aventures à chaque fois, quand même.
Excellentissime, à fond. Et donc, le Voodoo Shop, c'était la musique du shop de la.
Lady Voodoo.
Lady Voodoo. Et bon, on ne peut pas décrire tout le cachet que ce jeu a, comme ça, il faut vraiment y jouer pour comprendre, mais l'absurdité des dialogues, l'humour omniprésent.
C'est hilarant, ouais. Franchement. C'est
hilarant, c'est et ça se passe jamais comme un jeu devrait se passer, quoi. Les combats, c'est pas des combats d'épée, mais des combats d'insultes. Comment on dénoue certaines énigmes, c'est parfois au pif parce que c'est tellement tiré par les cheveux. Mais...
Bah, c'est très, il y a un côté très méta. Enfin, c'est un jeu qui a conscience d'être un jeu quelque part, qui a conscience d'être un point and click aussi et de jouer sur les mécanismes du point and click.
Il y a un passage dans la forêt où, je sais pas si tu te rappelles, on trouve, c'est quoi déjà, un message des développeurs où...
Oui, voilà.
Non, on tombe dans le. Oh, je sais plus.
Bah oui, non, mais bah, c'est comme un peu, oui, comme les un côté les cartoonesques, enfin les toons qu'on consente des toons, enfin c'est un peu ce délire-là, mais dans un univers de piraterie.
Absolument. Absolument génial. Et donc, c'est une série qui continue de perdurer. Mmh. Après, on est passé au morceau Future, composé par Philippe Vachet, encore une fois en français. Un jeu sorti en 96 qui s'appelle Time Commando, qui est vraiment pas un super jeu. Voilà, désolé.
Non, mais par contre, il y a de la 3D dedans. Et ça, c'est assez novateur à notre époque.
Il y a des super concepts. Le concept,
visuellement, c'est stylé. C'est de la 3D.
Ok.
Oui.
on peut pas enlever ça, tu as raison. Mais il y a des super idées de gameplay et tout. Après, le jeu, il est un peu rigide, un peu dur. Moi, je me rappelle, c'est un copain qui l'avait eu en démo. Non, pas en démo, qui l'avait eu, je veux dire, je crois, sur un CD, à l'achat d'un magazine, peut-être, je sais plus. Et après, on a quand même passé du temps dessus. Je crois qu'on voulait voir la fin, et c'est un jeu qui est assez passionnant, dans le sens où on est un commando du futur qui remonte dans le temps, et on traverse toutes les époques, donc de la préhistoire jusqu'au futur, en fait. Et on passe par le Moyen-Âge, etc. Et à chaque fois, à chaque niveau, évidemment...
Et on fout des grosses claques dans la tronche de tout le monde. Genre, on pète la gueule des hommes préhistoriques, tout va bien.
Ouais, c'est... Oui, bon.
Normalement, il y a une règle dans les voyages dans le temps, c'est que tu dois pas interagir avec le passé, sinon tu peux créer un paradoxe temporel.
Le commando, il s'en fout.
Il en a rien à foutre.
Le time commando, voilà, c'est Van Damme, quoi.
Oui.
C'est... Mais le jeu, il y a quand même une petite ambiance cool, et la musique de Philippe Vachet est quand même sympa. Et on se rappelle que Philippe Vachet a composé pour Little Big Adventure,
ah, oui,
et Alone in the Dark, qui sont deux jeux tirés, enfin créés par le même studio Adeline Software International, avec Frédéric Reynald notamment. Donc c'est, on est sur le fleuron du jeu vidéo français. Voilà, il faut aussi le préciser quand même. Et on a terminé, donc bah, j'en ai déjà parlé, le morceau de Dark Colony.
Et oui.
Voilà.
Et bah, trop bien cette petite rétrospective années 90.
Oui, là, il y a tellement d'autres trucs à dire. Il y a des jeux qui ont été mythiques évidemment, mais c'était sympa de.
Je rappelle que l'an 2000, c'est l'année prochaine, donc on fait bien d'en parler pour.
C'est dans
6 mois. Mettre tout ça à plat, et je sais pas, peut-être qu'avec les support CD, il va y avoir des nouvelles façons de faire de la musique de jeux vidéo par la suite, dans les années 2000, je sais pas. Hein, c'est...
Je sais pas.
Moi, j'ai hâte d'entendre
moi, je suis prêt,
tout ça.
Je suis prêt. Je suis prêt.
Trop bien. Et bah écoute, est-ce que ça te dit que j'envoie ma sélection de morceaux ?
Bah écoute, ça me dit carrément, et à bah, fond la caisse.
Trop bien. Et bah écoute, relax Max, en premier, on va s'écouter un morceau du jeu La Quatrième Prophétie, et puis il y a différents morceaux dont je vous parlerai juste après.
Ok, bah tranquille Emile, on y va.
Vous êtes sur Canal B 94 FM et vous écoutez l'émission musique.fm qui vous passe du son de jeu vidéo. En ce 29 mai 1999, je vous ai passé trois morceaux. Le premier venait du jeu La Quatrième Prophétie, sorti sur PC en 98, donc l'année dernière, le Swamp Theme de Eric Ashley. La Quatrième Prophétie, c'est un style de jeu qui est très nouveau, c'est un MMORPG. Tu vois ?
Alors qu'est-ce que c'est qu'un MMORPG ?
Ça vient de sortir. C'est comme un jeu de rôle, un RPG, un peu comme les Baldur's Gate et compagnie, mais sauf que tu joues massivement multijoueur avec d'autres personnes sur des univers persistants. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu es déconnecté du jeu, les autres gens continuent à faire évoluer l'univers pendant que tu n'es pas là.
Incroyable.
Je pense que c'est le futur du jeu vidéo, vraiment.
Mais il faut une connexion balèze quand même.
Voilà, ça, tout se passe sur Internet, ce nouveau truc. Et donc moi, j'ai énormément joué sur le site Goa, qui avait acheté les droits pour exploiter le jeu. Donc ça autorisait un accès gratuit au jeu, parce que normalement, les MMORPG, tu dois payer un abonnement mensuel. Normalement, tu dois payer 100 francs tous les mois, pardon. Donc le site Goa, c'est un précurseur dans la mise à disposition de serveurs en ligne pour des parties de jeux en ligne. Tu peux jouer à Counter-Strike, tu peux jouer à Age of Empires, tu peux jouer à plein de trucs comme ça, et tu peux jouer à la Quatrième Prophétie. Et ça met en avant aussi les connexions internet illimitées, parce qu'on n'aura plus à payer à la minute.
Donc il n'y a plus besoin d'aller forcément dans un café internet pour jouer avec
chez toi, tu peux y jouer. Et voilà. Et donc ce jeu, La Quatrième Prophétie, il est vraiment excellent. J'y ai passé énormément de temps. Et le jeu en lui-même devient presque secondaire parce que la communauté est super cool et t'as un côté roleplay très très chouette. Et donc du coup, tu te connectes uniquement pour aller jouer avec tes amis, buter des petites tarentules et explorer une forêt que tu as déjà explorée des dizaines de fois, mais c'est super stylé.
Mais attention à sa facture de téléphone alors.
Attention à sa facture de téléphone, donc vous pouvez choper un kit de connexion internet illimité. Et la musique dans ce jeu, par contre, est extrêmement limitée aussi, il doit y avoir même pas 10 pistes différentes dans toute la bio du jeu. Donc autant te dire que le Swamp Theme là qu'on a écouté, on l'écoute en boucle pendant des heures et des heures parce que c'est un peu le thème quand t'es dans la forêt quoi. Et donc j'aime beaucoup. C'est une nappe un peu très donjon mais avec une batterie un peu, je sais pas, un peu trip-hop derrière. Enfin c'est un espèce de mix. C'est le donjon des années 2000. On aime bien. Ensuite, je vous ai passé un morceau du jeu culte Command & Conquer Red Alert sorti sur PC en 96, le morceau Rollout de Frank Klepacki. Alors c'est un jeu de stratégie, c'est mythique, qui se passe dans une réalité alternative, qui n'a rien à voir avec l'histoire réelle. C'est pas du tout du truc qui pourrait se passer dans la vie, dans le futur. Et l'idée, c'est qu'en gros, ce jeu, la Seconde Guerre mondiale n'a jamais eu lieu parce que Albert Einstein a construit une machine à voyager dans le temps pour tuer Adolf Hitler. Et avec ça, donc, la guerre n'arrive pas, mais il y a des énormes tensions entre les USA et le bloc soviétique. Le bloc soviétique qui prend le contrôle de l'Europe de l'Est et de l'Asie, et du reste de l'Asie, ce qui mène à une guerre pour le contrôle de l'Europe. Donc voilà, pareil, c'est des situations qui ne pourraient jamais arriver. Vraiment.
Ouais, mais c'est hyper réaliste avec les vidéos, le jeu d'acteurs et tout, est incroyable.
Et ben, c'est totalement nouveau, c'est du FMV, full motion vidéo, avec des vraies personnes qui jouent
C'est ouf.
Et avec des jeux d'acteurs très nanardesques.
On est au cinéma quand même.
On est au cinéma, c'est fou, mais c'est des scènes cinématiques filmées avec des vraies personnes. Donc on n'avait jamais vu ça avant. Enfin, un petit peu. Mais ça reste quand même très impressionnant. Et la musique est très folle. Hein. Vraiment, ça part un peu dans tous les sens.
Un peu industriel, gros
ouais,
rock.
Mais il y a ce truc qui passe d'un thème à l'autre très rapidement, avec des breaks toutes les deux secondes. Et avec des sons très caractéristiques MIDI, avec les expandeurs audio, avec votre meilleur expandeur audio, c'est de la folie, hein, franchement. Et je pense que ça peut rappeler, alors je sais pas, j'ai une espèce de flash, mais dans les structures qui changent tout le temps, ça me rappelle peut-être, je sais pas, un truc qui s'appelle Matière Dense qui sortira en 2026 en cassette sur un label qui s'appelle musique.exe, mais je sais pas, enfin ça m'est venu comme ça.
Mais attends, tu t'es quand même Einstein, tu remontes dans le temps ou quoi ?
Je sais pas, ouais, voilà, j'ai prédit un truc, je sais pas pourquoi, ça m'est venu comme ça. et ensuite, en dernier, on a eu un morceau du jeu Duke Nukem 3D qui est culte aussi, hein, sorti en 96 sur PC. Le morceau Stalker de Robert Prince, un jeu très subtil aussi, hein, un chef-d'œuvre. C'est un Doom-like, Donc adapté de Doom, hein, dans lequel tu incarnes Duke. C'est vraiment un archétype de film d'action des années 80. D'ailleurs, oui, la voix française, il est doublé par Daniel Beretta, qui est le doubleur officiel de Schwarzenegger. Donc on est vraiment dans ce genre d'ambiance. Et le jeu, avec un univers assez mature, avec pas mal d'allusions sexuelles et de blagues un peu beaufs, on va pas se mentir.
Un truc de vrai mec.
Un truc de vrai mec viril. Mais ce qui me marque dans ce jeu, et qui a marqué pas mal de gens, c'est que le level design est très plausible. Contrairement aux autres jeux, par exemple Doom, t'es dans une station spatiale, bon c'est bien, mais t'as tendance à, ça fait très niveau de jeu vidéo quoi. Mm-hmm. T'as un couloir, une porte, une salle. Dans Duke Nukem 3D, tu commences, c'est dans la rue, tu rentres dans un cinéma, dans le cinéma il y a des toilettes, il y a une salle de projection, donc c'est presque palpable, ça rajoute un degré immersif au jeu qui est vraiment très cool.
Le premier niveau met une énorme claque en fait.
Voilà.
Parce que oui, comme tu disais, tu commences sur un toit d'immeuble, tu descends dans une bouche d'aération, tu arrives dans la rue, tu peux rentrer dans des appartements, tu rentres en plus dans un cinéma porno, tu peux traverser
cinéma
l'écran.
Cinéma porno, évidemment, pas n'importe quel cinéma.
Tu peux traverser l'écran, tu peux être de l'autre côté de l'écran, tu vas dans une cafétéria.
Tous les premiers niveaux du jeu, c'est dans un univers urbain. Après, tu es dans des stations spatiales, donc ça devient un peu plus générique à mon goût, même si c'est quand même génial. Et du coup, c'est ça en fait qui met un peu une claque à tout le monde, c'est le côté très plausible de l'univers.
Et c'est un jeu qui emprunte beaucoup à la culture qui l'a inspiré. Il y a des citations de films, des références à des personnages d'autres personnages de jeux vidéo. On croise d'ailleurs le Space Marine de Doom dans un sale état.
Oui, c'est un peu méta aussi.
C'est un peu comme on citait Monkey Island tout à l'heure, c'est les jeux qui prennent conscience de là où, enfin du monde dans lequel ils ont été développés et tout quoi, donc c'est passionnant.
Carrément. Et la musique d'ailleurs, je la trouve, ce morceau je le trouve vraiment bien parce qu'il commence assez doucement avec cette petite ligne de basse un peu inquiétante, tu sais pas trop où t'es, et de façon assez progressive il y a des instruments qui se rajoutent, qui s'agrémentent avec pour entrer de plus en plus dans l'action. Et je trouve que ce morceau est trop stylé.
Bon, on espère juste qu'il prend la conscience un peu de ses actes, ce bon Duke.
Oui, c'est vrai. C'est un peu questionnable. Voilà, et donc j'ai encore 3 morceaux à vous passer juste après, si vous le voulez bien.
On y va.
We'll be right back. On est toujours sur Canal B 94 FM et c'est l'émission musique.fm du 29 mai 1999. On s'est écouté quelques sons de jeux vidéo des années 90. Donc en premier, il y a eu un morceau du jeu Jex sorti sur PC en 97, le Cemetery Stage de Greg Weber. Donc Jex, pour le présenter rapidement, c'est un jeu de plateforme très méta dans lequel on incarne un petit gecko qui est avalé par une télévision. Et donc il passe son temps à explorer des univers inspirés de la télé et du cinéma. Et donc là on a écouté un morceau qui se passe dans l'univers horrifique. Parce que voilà, t'as le niveau cartoon, le niveau machin, enfin le niveau gangster. Là c'est l'univers horrifique. Et le morceau, il est très prog en fait. Il y a une vraie... je sais que je dis souvent ça, mais là il y a une vraie progression avec plein de thèmes et avec un groove un peu improbable qui se transforme en truc un peu orchestral et grotesque. Et ça fait très penser quand même à Danny Elfman.
Ah oui,
étant donné que Tim Burton actuellement c'est le roi d'Hollywood, hein, on peut le dire. C'est quand même voilà, donc Danny Elfman qui a composé toutes les BO pour Tim Burton.
Et les Simpsons.
Et les Simpsons, oui, bah pas que, mais voilà.
Oui, voilà, c'était histoire de.
Et ensuite, on a eu un jeu complètement trop de la balle, en fait. Le jeu d'après, il est chambé, je dirais. C'est Midtown Madness, sorti sur PC, donc cette année, en 99. Le morceau Just Rock and Roll, composé par Paul Lackey. Donc, c'est un jeu qui est là pour montrer un peu les capacités des nouveaux PC. Enfin, c'est fou visuellement. Et si t'as une super carte graphique, c'est magnifique. C'est un jeu de course dans un univers urbain.
Il va falloir s'équiper encore. Parce que moi, j'ai déjà acheté la 3DFX il y a pas longtemps. Hein.
Mais oui, voilà. Bon, j'ai pas d'autres rêves de carte graphique de l'époque. Mais bon, bref. Et donc, on est dans un environnement ouvert qui est une reproduction de la ville de Chicago. Mais ils ont reproduit la ville de Chicago en entier sur un CD. Je sais pas si tu te rends
exceptionnel.
Compte. Donc, t'es au milieu de la circulation. Tu ne peux pas écraser les piétons comme dans Carmageddon, malheureusement.
Ah.
Parce que là, ils s'enfuient. Et il se colle contre les murs, donc tu peux pas les buter. Mais donc voilà, c'est un jeu beaucoup plus sage, avec la musique qui était un peu électro lounge chill cool Raoul quoi. Et en dernier, on a eu un morceau du jeu Daggerfall Elder Scrolls 2 sorti sur PC en 96, le morceau Day Team 3 Sunny Day de Eric Haberling. Donc c'est un épisode de jeu de rôle. Voilà, c'est son deuxième épisode. J'espère qu'il va y en avoir d'autres. Hein. Je sais pas, je suis pas sûr. Mais bon, les Elder Scrolls, ça semble bien parti pour faire une bonne série de jeux. Donc, et il est aussi réputé pour sa carte absolument titanesque, mille fois plus grande que tous les autres jeux. J'ai regardé avec mon modem 56K sur Internet Explorer. Le jeu, la carte fait la taille de l'Allemagne.
Voilà. Wow.
C'est-à-dire que si tu parcours le jeu à pied, c'est le même temps que parcourir l'Allemagne à pied dans la vraie vie. Donc bon,
je sais pas quoi dire.
Après, bon, 90% de la carte est complètement vide ou alors avec des donjons un peu nuls générés aléatoirement, assez interchangeables. Mais c'est une vraie prouesse technique. Et je trouve que la BO, c'est un chef-d'œuvre de Dungeon Synth, un style de musique qui est apparu donc dans les années 90. Hein, c'est un style de musique qui est affilié au metal, plutôt au black metal. Et c'était dans les groupes qui avaient l'habitude d'utiliser des synthétiseurs pour faire des sons d'ambiance ou des interludes ou des trucs comme ça. Et il y a des musiciens qui se sont dit, tiens, on fait des albums entiers avec ces ambiances un peu dark, un peu médiévales. Et black metal oblige, souvent joué sur du matos un peu désuet, avec un son vraiment un peu crade. Et c'est drôle, parce qu'à peu près en même temps, à la même période, il y a tous ces jeux qu'on adore, des jeux de rôle médiévaux qui sont développés sur PC avec des BO aussi, joués avec des synthés assez limités, mais avec les mêmes genres d'ambiance. Donc je ne sais pas s'il y a une corrélation, une influence mutuelle. Mais en tout cas, il y a beaucoup de très beaux albums de Dungeon Synth dans le jeu vidéo. Et voilà, Dijon et Dragon, etc. On aime bien la Dungeon Synth. Et voilà, c'était ma petite sélection du moment. Pour cool. 99.
Bah écoute, merci, c'est trop bien. Et
ça
maintenant,
fait
si.
Wow! Qu'est-ce qui vient de se passer, Alexis?
Je sais pas, c'est trop bizarre parce que. Attends, on est là, toi et moi, à Canal B.
Ouais,
en train d'enregistrer notre émission comme d'habitude, musique.fm.
Bah, en 2026, on
mais
est d'accord.
Pas, j'ai eu l'impression que qu'on était dans une époque un peu passée, quoi. Je sais pas, c'est trop bizarre. Je vois la sélection là sur le Winamp de l'ordi, que des trucs de PC, de Windows, de trucs dans ce genre là.
On était possédé par la nostalgie, je sais pas. On a voyagé, on était dans un vortex étrange.
Putain, c'est ouf. Bon bah écoute, j'ai hâte d'écouter ce qui a été dit. J'espère qu'on n'a pas dit trop de conneries.
Non. Mais en tout cas, en 2026, on a aussi des trucs à dire sur la musique de jeux vidéo.
Oui, on va pas s'arrêter là parce que les années 90 c'était cool, mais heureusement qu'il y a des labels comme musique.exe pour rendre honneur un peu à la musique de jeux vidéo et aux artistes qui s'inspirent de la musique de jeux vidéo.
Exactement.
Et
là, on a des petites news du label.
Mais oui, on a un programme un peu chargé, ça y est. Demain, donc demain, on sera le 29 mai 2026, car nous avons voyagé dans le temps, il semblerait. Donc je précise qu'on est bien en 2026 et plus en 1999. Et demain, donc, sort le dernier single de Cours de récré qui s'appelle En vide-grenier, ouais. Qui correspond très très bien à cette saison des vide-greniers qui vient de commencer à peu près là, qui est foisonnante. À Rennes, il y a des très très beaux vide-greniers à faire. J'ai déjà trouvé un peu de petits jeux là il n'y a pas longtemps.
Tu as déjà looté des trucs ?
J'ai déjà looté. Et donc, c'est le dernier single avant l'album qui sortira donc à la fin du mois de juin. Et
trop hâte.
On vous en reparlera bien évidemment. Donc demain, Cours de récré, Envie de grenier, un morceau très très cool, très pop. On va le passer donc juste dans l'émission là, dans pas longtemps.
Okay.
Et on vous rappelle bien évidemment, quoi Benjamin, que la semaine prochaine aussi...
Il y a la sortie de DJ LMS Expansion Pack.
Oui.
En format CD, hommage à la PlayStation et à toutes ces années magnifiques.
Tout à fait.
Avec un design particulier pour une musique extrêmement stylax.
Absolument, et ce qui représente bien un peu tout ce qu'on explore chez musique.exe, c'est-à-dire comme matière dense aussi, par exemple, qui était dans une BO fictive d'un jeu, voilà, qui est très très référencé, DJ LMS qui, elle, part complètement dans une musique influencée par les BO type Dreamcast.
Oui, c'est pas la même génération, du coup elle est plus jeune, donc elle est plus bercée par les sonorités des
années
2000.
Et Cours de récré qui est plutôt dans le versant très pop du label, un peu comme Rejane, qui s'inspire des esthétiques ou même dans les textes parfois. Mais par contre, on est plus dans de la synth pop pour mettre une étiquette un peu large, quoi.
Voilà. Et sinon, le label sera à Saint-Malo samedi.
Oui, tout à fait.
Ce samedi.
Saint-Malo, Rock City.
Rock City, voilà. Donc, il y aura un stand musique.exe. Donc, si vous êtes à Saint-Malo et que vous avez envie de looter des items musique.exe, franchement, c'est l'occasion. Et puis, comme ça, on pourra se rencontrer et ça va être trop bien.
Et voilà. Et ben, on se quitte. Bon courage pour la canicule, tout le monde. Envie de grenier, de cours de récré. Et à très bientôt.
Salut, à la prochaine.
De grenier. Sinon, à défaut des 45 tours, qui me donne envie de pleurer. Et j'aime tant parcourir les étals, remonter le temps, trouver des trucs pas banals.